Vous êtes bien sur Radio Libertaire, la radio qui n'a ni pub ni système hiérarchique. Ce matin, deux docteurs d'un thème central pour quelques franciliens, quoi qu'ils le diront eux-mêmes, peut-être pas encore assez central à leur goût. Avant de vous les présenter, le temps que vous filtriez votre breuvage du matin, je vous propose contre-intuitivement, ce début de journée, de refermer les yeux un petit instant pour imaginer Paris en 1900 avec 110 000 chevaux arpentant ses rues. Pensez à ces piétons déambulant au milieu de tout ça au rythme maximum de 5 petits kilomètres par heure en cas de forme. Et si le piéton pouvait se libérer de sa condition de piéton sans être un notable ? Ce cher homme sur deux pattes, ou cette chère femme, du début du siècle, qui ne pouvait rêver aux gyropodes ou autres hoverboards. Et oui, vous l'aurez deviné ce matin, il sera question de moyens de locomotion. De la charrette à bœufs jusqu'au fixie le plus design, en repassant par le Solex, fierté française, c'est bien la mobilité qui nous a fait asseoir ce matin. Et de mobilité, il en est question dans Le Chiffon. Oui, Le Chiffon, le journal indépendant de Paris et sa banlieue, tenu par des petites mains de tous horizons. Un journal d'actualité du temps plus long, que vous pourrez relire bien après sa parution trimestrielle. On tient au format papier, mais nous avons tout de même une page dans les internets où vous pourrez nous retrouver, nous et nos lieux de vente, sur lechiffon.fr. Vous pourrez également vous abonner pour moins de 20 euros par an. Une ligne éditoriale peut-être ? Oui, se méfier de tout ce qui est toujours présenté comme le progrès, le mieux, le bien. Notre numéro 8 sur la réinvention de la roue est disponible dans vos librairies, dans quelques lieux amis, et vous fera repenser le vélo électrique, les zones de faible émission, la trottinette récemment abolie dans Paris, et entre autres sujets, l'émancipation des femmes par la circulation à vélo ou comment les cycloficines se réinventent pour dispenser l'art de la réparation, entre femmes notamment. L'un de nos deux invités avançait d'ailleurs l'idée que le vélo, point central du thème du jour, a été un compagnon de la libération des femmes et nous y consacrerons une émission entière prochainement. Pour l'heure, à nos côtés ce matin, Frédéric Errand, économiste des transports, urbaniste et maître de conférences, auteur d'une étude sur le retour de la bicyclette, une histoire des déplacements urbains de 1817 à 2050, paru aux éditions La Découverte, collection Cahiers Libres. Bonjour Frédéric, pouvez-vous vous présenter, vous et vos travaux ? Ce que vous me disiez hors micro tout de suite était passionnant.
Oui, bonjour à tous. Eh bien écoutez, je suis économiste des transports et urbaniste à l'Université de Lille. Et en fait, je travaille sur l'ensemble des mobilités, pas que le vélo. Mais ce qui m'intéresse, c'est la cohérence des politiques de déplacement. De comprendre quel mode mettre en avant. En fait, le mode premier, c'est la marche, évidemment. Et ensuite, le vélo. Après, le transport public. Et puis enfin, la voiture. La voiture partagée d'abord, puis enfin la voiture solo en dernier. Voilà, je travaille sur des choses comme ça.
Merci. Et Clément Dusson, docteur en aménagement de l'espace et de l'urbanisme, expert formateur en mobilités actives, dont la thèse porte sur les dynamiques de l'usage du vélo dans les espaces de banlieue. Bonjour Clément, merci d'avoir répondu à dernière minute. Est-ce que vous voulez vous présenter ?
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Donc moi, mon point de départ, c'est vrai que c'est un départ très francilien. C'est aussi le thème et la thématique de votre journal. Et moi, c'était vraiment mon expérience personnelle qui m'a fait découvrir le vélo, donc mon usage au quotidien en tant que francilien et banlieusard. Et moi, mon travail de thèse et mes travaux qui se prolongent sont très orientés sur cette dynamique-là. C'est d'essayer de comprendre un peu sur le temps long l'évolution de la pratique du vélo au sein d'un territoire métropolitain et de l'agglomération francilienne, et de voir aussi comment, en fonction des territoires, des classes sociales et des différentes périodes, voilà, les pratiques se réorganisent. Et forcément, comme l'a dit Frédéric, il y a évidemment l'intérêt pour le vélo, mais aussi pour les autres modes de transport, parce qu'on se rend bien compte que voilà, c'est toujours une négociation, que ce soit au niveau collectif ou individuel. Les choix de mobilité, c'est on choisit voilà un mode plutôt qu'un autre, et donc c'est tout un système. On parle souvent de système de mobilité. Donc si cette analyse là, on va dire avec une vision globale à la fois sur le temps et sur les différents modes qui m'intéressent.
Et oui, de ce matin, le vélo ne sera finalement qu'un totem, prétexte pour passer en revue aussi précisément que possible l'urbanisme de ces 100 dernières années. Soyons audacieux. Alors, On va d'abord revenir un peu à la jeunesse du vélo. Je reprenais un peu votre parole en introduction, Frédéric. Est-ce qu'on peut se figurer 110 000 chevaux qui circulent dans Paris? Moi, cette image m'a vraiment poursuivi depuis que je l'ai intégré. Et pour introduire votre propos, est-ce que vous pouvez nous dresser un peu un tableau du début du siècle et l'apparition de cette invention à cheval entre France, Allemagne et Grande-Bretagne?
Oui, effectivement, Paris, c'était le royaume du cheval. L'apogée de l'utilisation du cheval, c'est aux alentours de 1900. Et ça pose quelques problèmes, parce qu'il y a des déjections d'abord, donc beaucoup de nuisances liées à cela, mais toutes les nuits, Paris était nettoyé. Des tombereaux, c'est-à-dire de grandes charrettes tirées par deux chevaux, passaient dans les rues et on ramassait le crottin minutieusement. Et rien n'était perdu, ça permettait d'amender la production maraîchère autour de Paris, avec en générant une productivité agricole extraordinaire, puisque 80% des besoins en légumes et fruits des Parisiens étaient couverts par cette ceinture maraîchère extrêmement productive grâce au crottin de cheval. Bon, cela dit, quand le vélo est apparu, eh bien, on l'a tout de suite comparé au cheval. Et évidemment, il est beaucoup, beaucoup plus efficace et beaucoup moins cher que le cheval. Il y a des courses qui ont eu lieu, d'ailleurs, à ce propos, pour voir qui était le plus rapide, finalement. Est-ce que donc, notamment une course entre Vienne et Berlin. Et bah, évidemment, le vélo s'est avéré 2 à 3 fois plus rapide que le cheval. Et le cheval, en fait, s'épuise très vite à galoper. Et en meurt tellement, enfin, ça le fragilise, il a des problèmes cardiaques. Et 30% des chevaux sont morts à l'issue de la première course qui a eu lieu en 1891. Et en 1893, il n'y avait que les cyclistes et aucun cycliste n'est mort à l'issue de la course. Donc ça a été c'était la démonstration éclatante que vraiment le vélo allait gagner par rapport au cheval. Et puis surtout, le vélo ne mange pas de foin, n'a pas besoin d'écurie, pas besoin de palefrenier, c'est extrêmement économique. Pour autant, il était quand même assez cher. C'était, pour donner une idée, en 1895, un vélo coûtait à peu près, hein, j'ai essayé de trouver la correspondance par rapport à aujourd'hui, à peu près 7000 euros. Ouais, c'était un bien coûteux. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'un millier de pièces à ajuster finement. Il a donc fallu faire un énorme effort de standardisation des pièces et puis de mise au point de cette mécanique qui a l'air simple mais qui est en fait assez complexe. Et en fait, c'est 3 pays qui se sont bagarrés entre 1865 et 1891, en 25 ans. La France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne ont cherché à mettre au point le vélo moderne. Ils sont parvenus à coups de centaines de brevets déposés. Et on a eu toutes sortes d'inventions. Je sais pas, par exemple, le roulement à billes, la pédale, le cadre diamant, la selle suspendue, etc. Et la dernière grande innovation, enfin plutôt l'avant-dernière, ça a été le pneu gonflable qui a énormément amélioré le confort du cycliste. Parce qu'avant, avant c'était très tape-cul un vélo.
Clément, vous me disiez tout à l'heure, il faut imaginer rouler sur une route mal pavée avec des jantes, quoi. Des jantes en métal.
Oui, c'est ça. De toute façon, c'est ce que dit Frédéric, c'est une histoire de confort qui prend énormément de temps. Il y a la question du véhicule et la question du revêtement. Et en fait, quand on parle de mobilité, il faut toujours penser que c'est... On parlait de système avec différents modes, mais c'est aussi un usager, un véhicule et une infrastructure. Donc on a tendance à l'oublier hein, quand on est piéton et même quand on est cycliste. Mais en fait, aujourd'hui, on a quand même en France, en tout cas, et en Ile-de-France, des rues qui sont de très bonne qualité. Et on a des textes de cette époque-là, hein, de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, de cyclistes qui se plaignent aussi de la qualité et du revêtement des routes qui sont mal pavées, ou notamment dès qu'on sort de Paris, parce que c'est, en fait, on a les mêmes enjeux, on va dire, d'inégalité, de qualité d'infrastructure entre Paris et sa banlieue, avec des textes de l'époque qui critiquent justement la qualité des routes dès qu'on sort de Paris, et les personnes qui font du vélo à cette époque-là, à l'époque que nous décrit Frédéric, évidemment que c'est une pratique plutôt élitiste et plutôt bourgeoise qui s'inspire des pratiques équestres à la fois dans les mœurs et dans les habitudes, et donc il va avoir aussi toute une sorte de lobbying qui va se mettre en place. Donc souvent on parle du Touring Club de France à l'époque, qui est un peu une grande association de cyclotouristes qui va faire la promotion du tourisme et aussi du véhicule qui va avec, qui est le vélo. Et donc on a vraiment ce rapport au confort qui va s'améliorer à travers évidemment des innovations techniques, mais aussi un lobbying des cyclistes de l'époque, qui sont pas du tout représentatifs de la population évidemment.
Une réaction, oui. Frédéric.
Oui, par exemple, donc vous avez compris, comme l'a bien dit Clément, c'était on a d'abord commencé par un usage bourgeois du vélo, comme il était cher. Et la bourgeoisie s'est battue pour avoir des aménagements cyclables. Alors que ça prenait quelle forme à l'époque ? Eh bien, un revêtement sur les bas-côtés des routes pavées. Il fallait pouvoir rouler de façon plus confortable. Et ce n'est que dans l'ouest parisien, là où habitent les bourgeois, que les sorties de Paris étaient bordées de sortes de bandes cyclables. D'un revêtement sableux sur les pavés de façon à ce que ce soit plus roulant. Et dans l'est parisien ou nord-est parisien, rien de tout ça, que des pavés, quoi.
Et dans cette course à l'innovation, vous me disiez tout à l'heure que donc France-Allemagne-Angleterre, France-Allemagne était occupée à autre chose et que c'est l'Angleterre qui a pris le pas. Comment on est passé du vélo bourgeois ? Vous avez essayé d'estimer à 7000 euros le coût d'un vélo avec les centaines de brevets que ça demandait, à l'image de se rendre à l'usine tous les jours en vélo. Comment on est passé de l'un à l'autre ?
Parce que le coût d'achat d'un vélo a considérablement baissé, a été divisé par 10 entre 1895 et 1935. En 40 ans, division par 10 du coût d'un vélo en nombre d'heures de travail nécessaires pour l'acquérir. Grâce à la standardisation, mais aussi à la hausse du pouvoir d'achat. Et bref, le vélo devient beaucoup plus accessible aux classes populaires dans les années 30. Dans les années 30, un vélo coûtait à peu près 700 euros, quoi, au lieu de 7000. Ce qui est évidemment beaucoup plus accessible, mais encore cher, relativement cher pour l'époque. Donc il y avait en gros, pour faire simple, un vélo par famille ayant vraiment besoin d'un vélo, c'est-à-dire habitant un peu trop loin de son lieu de travail, quoi. Donc par exemple, mon grand-père avait un vélo et il faisait 2 km aller, 2 km retour. Même un peu plus de 2-3 km aller puis retour pour aller, il était cheminot, et pour aller sur son lieu de travail, quoi. Et j'ai encore fait récemment ce trajet. Ça m'a bien plu de voir ce qu'il avait pu faire, quoi. Évidemment, en plus, sur des routes bien moins confortables qu'aujourd'hui, mais c'était donc tout à fait possible, courant à l'époque, d'aller à l'usine, à son lieu de travail, mais aussi au champ, mais aussi au bureau, à vélo.
Vous précisiez un point important, c'est que dans les années 30, il y avait autant de pratiquants du vélo en France qu'en Allemagne ou en Grande-Bretagne, et nous le verrons dans une troisième partie d'émission, c'est plus le cas aujourd'hui. Mais y avait-il, qu'est-ce qui explique qu'à l'époque, y avait-il des disparités de territoire ? Est-ce que le logement était plus proche de l'emploi tout de même ?
Si je me permets de rebondir, Frédéric, mais je pense qu'il y a aussi, au-delà des questions vraiment structurelles sur les distances de déplacement, il y a aussi, encore une fois, c'est ce qu'on a dit juste avant, de diffusion de la pratique d'un point de vue social et socio-économique, en fait. Et les gens qui commencent à faire du vélo, c'est d'abord les bourgeois, on l'a dit, et forcément parce que ça coûte cher, et donc dans certains milieux socio-spatiales, mais ensuite, c'est pas tout de suite pour tout le monde, donc notamment les milieux urbains, en fait, c'est là aussi, c'est là où les gens vont s'équiper, c'est là aussi, il y a les manufactures, il y a les usines de construction de cycles, forcément, dans la France très très rurale, ils sont aussi éloignés, donc il y a aussi une histoire de distance, évidemment, de déplacement, mais il y a surtout une distance par rapport au centre de production et là où se font les nouvelles pratiques, et là où il y a des personnes qui ont les capacités d'acquérir ces vélos, qui sont quand même encore chers, c'est pas donné à tout le monde, donc il y a aussi des histoires de centres périphériques, on va dire, qui se font à l'échelle de l'agglomération forcément de l'Île-de-France mais aussi à l'échelle de la France, hein, forcément dans les territoires ruraux, ils accèdent plutôt au vélo très commun, plutôt à l'après-guerre, hein, dans les années 50-60. Et là, on imagine plutôt voilà, des territoires ruraux qui s'équipent. Mais je pense que dans l'entre-deux-guerres, on est quand même encore sur une pratique plutôt urbaine. Et justement, on pense aux usines et on pense pas trop, par exemple, aux espaces ruraux.
Et vous me donnez une transition toute faite, c'est-à-dire que le vélo devient accessible et on arrive aux années 50 et on a l'essor d'une invention dont la France va devenir leader mondial pendant quelques années. Frédéric, vous releviez que de 54 à 60, la France se hisse au rang de premier producteur du fameux Solex, de la mobilette, du Peugeot, trois inventions qui motorisent les cycles. Et alors on assiste à une ringardisation complète du vélo à cette époque. Est-ce que vous pouvez un peu nous détailler les rhétoriques qui étaient à l'œuvre à l'époque et comment on est passé de...
Oui.
Du vélo libérateur au vélo ringard, relégué.
L'après-guerre, c'est l'essor de la motorisation. Et en France, elle va passer plus qu'ailleurs par le deux-roues motorisé, avec un laxisme des autorités qui va être terrible. Pourquoi ? Parce que ça va provoquer des dizaines de milliers de morts. Alors, je vais expliquer ça. Pendant la guerre elle-même, le lobby des deux-roues motorisés est déjà à la manœuvre. En juillet 1943, le lobbyiste de l'époque parvient à faire passer un décret ultralibéral en pleine période de Vichy, donc à un moment où on pouvait imaginer qu'il y avait d'autres priorités, quoi. Un décret ultralibéral instaurant la réglementation qu'on va connaître pendant des années entre cyclomoteur et moto, quoi. Bon. Cyclomoteur, vélomoteur, moto, en fait. Cyclomoteur, c'est moins de 50 cm3. Le vélomoteur, c'est 50-125 cm3. La moto, au-delà. Bon. Et l'objectif d'après-guerre, c'est vraiment de motoriser les cyclistes. C'est ça ce que le lobby va faire à tout prix.
Motoriser les travailleurs, surtout, non ? Pour l'efficacité.
Oui aussi, mais aussi parce qu'il y a un marché énorme à capter, quoi. Et les slogans sont clairs. Le Solex, c'est la bicyclette qui roule toute seule. Et la mob, hein, la mobilette bleue, c'est un vélo avec un bon petit vent arrière permanent. Voilà. C'était la pub de l'époque. Et très vite, cette pub est devenue en quadrichromie dans les années 60, c'est-à-dire en couleur. Hein. Et là, les constructeurs ont surfé sur la presse jeune. Je ne sais pas, OK Magazine, enfin, moi j'ai connu ça. Hein. Vieux schnock.
Salut les copains, les choses
comme ça. Salut les copains, etc. Voilà. Et là, on voyait par exemple Johnny sur une Paloma Superstrada, donnée généreusement par un constructeur belge. Il est belge, hein, d'origine, Johnny Hallyday. Et bref. Pour draguer, il fallait avoir un deux-roues motorisé, quoi. C'était la pub de l'époque.
Je me permets de rebondir pour faire un petit retour en arrière pour comprendre ça aussi. Il faut comprendre aussi l'image qu'a eu le vélo pendant les années 30. Certes, on en a un peu parlé de ce vélo populaire, les sorties d'usine, etc. Mais aussi le vélo pendant la guerre. Et je pense que ça, c'est structurel pour comprendre ce qui se passe sur les années, fin des années 40, 50 et surtout 60. C'est qu'en fait, on va avoir une image du vélo qui va être aussi très attaché à la période de guerre, à la période de rationnement, de crise, de solution de mobilité. À un moment, il n'y a plus de pétrole, la motorisation est complètement arrêtée justement par tout ce contexte de crise-là. Et donc ça va aussi marquer profondément les esprits, les familles et ce rapport à l'effort. Et donc il y a toute une période d'après-guerre où aussi on essaye de voir un monde, on va dire, avec un monde plus confortable, même si je pense que le mot confortable peut des fois prêter à des anachronismes, mais se dire un mode plus confortable, et le rapport à l'effort aussi est quand même différent. Et moi j'avais lu notamment il n'y a pas longtemps dans une histoire du cyclotourisme qui montrait que la pratique du cyclotourisme, typiquement juste après dans les années d'après-guerre, années 50-60, c'était complètement effondré, justement parce qu'en fait ce rapport à l'extérieur, à être dehors, à pratiquer l'effort, faire du vélo, découvrir la France, en fait c'est quelque chose que les gens ils avaient un peu envie de passer à autre chose, parce qu'en fait ils l'avaient découvert avec l'exode, avec le ravitaillement au quotidien pour aller chercher des œufs ou du beurre à la ferme à 5 km. Et donc en fait il faut se dire que ça a tellement enfin, le rapport, le fait d'être en extérieur, de devoir se déplacer à la force musculaire, etc., ça a tellement marqué les gens pendant cette période-là qu'on oublie aujourd'hui que forcément ça a participé à rendre aussi le vélo ringard, évidemment, qu'il y a le travail des publicités, la promotion des véhicules motorisés, mais il y a aussi la période et le conflit et la période de guerre que les gens ont vécu qui a profondément marqué l'image et les usages du vélo pendant au moins une dizaine d'années.
Je vais révéler aux auditeurs un truc incroyable, c'est que le vélo, c'est fatigant. et ben oui, alors c'est aussi ça qui explique que la motorisation ait eu un tel succès. Quand on a dit aux gens, mais attendez, vous allez pouvoir aller à la fois plus loin et sans en vous fatiguant moins. Hein, on va en reparler avec le VAE aujourd'hui, le vélo assistance électrique, c'est on a le même phénomène, mais on verra que c'est un peu différent quand même. Mais, donc pour en rester aux années 50, 60, bon, donc le deux-roues motorisé connaît un essor considérable, et c'est en France qu'il va connaître l'essor le plus important, puisque nous sommes le seul pays en Europe à avoir connu plus de deux-roues motorisés que de cyclistes, au milieu des années 70, on a une statistique qui est claire là-dessus, plus que les Italiens, assez proches de nous quand même, plus que les Néerlandais, que tout le monde. Et ça va se payer très très cher, car en deux roues motorisées, on roule beaucoup trop vite. Au début, il y avait aucune limite d'âge, aucune limite de vitesse, aucun casque, et ça c'est mortel, mortel. Il y a eu, donc en 1960, pendant une année, il y a eu plus de morts en deux roues motorisées qu'en voiture. Quoi. Plus de 2500 morts, rien qu'en deux roues motorisées, oui.
2500 morts par an, je...
Par an, oui, par an.
Précise.
On le devinait. Donc de ces années 60, un petit peu, fin des 30 glorieuses, on veut encore s'amuser à moindre effort. Et ensuite, on arrive aux années 70, certaines restrictions, une crise. Et là, j'aimerais vous lire quelque chose qu'un chiffonnier relevait dans le premier article de notre dossier, disponible dans le seul journal indépendant de Paris et sa banlieue, qui a été écrit sous Pompidou. Et deux, d'ailleurs, d'entre nous dans ce studio n'étaient pas nés. Je cite « La crise de l'énergie, la lutte désormais engagée contre le gaspillage, la nécessité de concevoir et aménager des villes plus humaines nous conduisent à examiner avec un nouvel état d'esprit la conception et le fonctionnement de notre système de transport en privilégiant les modes de transport qui consomment le moins d'énergie, tels que les transports collectifs, les bicyclettes et cyclomoteurs. » Notre chiffonnier, dans l'introduction au dossier, relevait à juste titre que ce texte pourrait dater de ce matin, tant il demeure actuel. Peut-être en enlevant le mot cyclomoteur. Mais Clément, vous évoquez l'argument de la défense du patrimoine avancé dans les années 70 pour réduire l'espace dévolu aux voitures. On se rend enfin compte que redonner de la vie à la place urbaine aurait peut-être plus d'importance que l'auto. Et votre pensée m'a tout de suite rappelé celle de l'architecte Paul Chemetov. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un grand témoin de l'époque qui est né en 28 et qui n'a cessé toute sa vie, il n'est toujours pas mort d'ailleurs, de déplorer une architecture de moins en moins dédiée à la rencontre, aux espaces collectifs, au profit d'une simple efficacité et du petit confort individualiste. Alors, quelle rhétorique il y avait à l'œuvre à l'époque?
Oui, alors les années 70, on découvre ce discours-là, mais il faut penser qu'il est loin d'être majoritaire. C'est le moment où il commence à émerger, et comme on a dit, les différents processus qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est des processus qui sont des fois encore minoritaires. C'est plutôt des processus nouveaux et des images nouvelles et des visions nouvelles, et qui mettent du temps à s'appliquer, à être vraiment consensuel, hein, typiquement sur l'extrait que vous avez lu. Ben voilà, il y a forcément des services de l'État qui ont écrit ce texte-là, mais avant que ça fasse consensus et que tout le monde soit d'accord, même si on était en période de crise, ça prend du temps, et peut-être qu'on y arrive enfin, entre guillemets, sur un consensus sur le sujet, notamment sur le vélo. Mais globalement, l'histoire, pour revenir sur la question, l'histoire de l'espace public, c'est l'histoire d'une place grandissante donnée à la circulation et au trafic. Et ça, il faut bien le penser... Ce n'est pas uniquement lié à la voiture, c'est un processus de long terme qui s'inscrit sur plusieurs siècles. Et la voiture a seulement pris la place et dans une dynamique qui était déjà celle-ci, c'est-à-dire de réduire les espaces de vie, les espaces d'échange dans l'espace public pour donner de plus en plus de place à la circulation. Tout à l'heure, on parlait des chevaux, des 110 000 chevaux. Ces 110 000 chevaux, justement, ils sont aussi contraignants, ils contraignent aussi la vie dans l'espace public parce que bah, ils peuvent aller vite, parce qu'il y a des accidents mortels, il y a des gens qui se font renverser par des voitures à cheval, il y a des gens qui se font renverser par des chevaux. Donc c'est toute une histoire de place grandissante de la circulation dans l'espace public, dont la voiture et les deux roues motorisées vont juste voilà, prolonger cette dynamique-là. Mais c'est pas quelque chose de nouveau et c'est pas quelque chose qui est spécifique au 19e siècle. Et d'ailleurs, je reviens sur, pour reboucler avec nos discussions du début, il y a quelques temps, je suis tombé sur le slogan d'une des premières manifestations cyclistes à Paris qui daterait de 1893. Et en 1893, le slogan des cyclistes, c'est de dire « le vélo est une voiture ». Et quand il parle de voiture, il parle de voiture à cheval. Il n'y a pas encore d'automobile. Et donc, il y a bien encore déjà ce rapport à la voiture à cheval et la voiture de l'époque, puis l'automobile, voilà, prendre la place dans l'espace public. Et c'est pas inhérent, encore une fois, je le répète, hein, je me fais une tarte à la crème, mais je le répète, c'est pas inhérent aux véhicules motorisés. Et donc, cette place-là, à partir des années 70, on commence à le questionner, et il va y avoir des grands textes, notamment un texte d'une américaine qui s'appelle Jane Jacobs, qui parlera de la vie et de la mort des villes américaines, et qui va commencer à se poser la question de la vie urbaine et qu'est-ce qu'on veut pour nos villes.
Oui, la crise de 1974 a été un choc terrible. Donc je rappelle, quadruplement des prix du pétrole à la fin de 1973, instauration de l'OPEP, enfin, etc., de l'Organisation des pays pétroliers, et qui s'organise pour revaloriser le prix du pétrole suite à la guerre des six jours. Enfin bref, il y a tout un contexte qu'on a un peu oublié, mais qui a énormément secoué les gens. Du jour au lendemain, des pays sont... un embargo sur les ventes de pétrole concerne certains pays, dont les Pays-Bas.
Bah, Pays-Bas et États-Unis, c'est les deux qui sont soumis à l'embargo des pays exportateurs de pétrole, parce qu'ils soutiennent Israël directement. Donc,
ils sont considérés comme étant des soutiens, oui, importants d'Israël. Donc, aux Pays-Bas, on regarde les stocks et on se dit, il nous reste 3 mois. Il faut absolument qu'on rationne l'utilisation du pétrole. Ils instaurent des dimanches sans voiture. Les Néerlandais réinvestissent les autoroutes avec les vélos, des autoroutes désertées par les voitures avec des vélos. Enfin, voilà, il y a plein d'événements qui font que on se dit soudain que c'est un peu stupide d'abandonner le vélo. Et le vélo est soudain réhabilité, mais ça va durer seulement quelques années. Y a donc un rebond tout à fait sensible des ventes qui vont presque doubler en France, par exemple, et à peu près dans toute l'Europe. Les ventes de vélos connaissent un boom incroyable. Tous les politiques disent « on va faire des choses pour les vélos ». Des aménagements cyclables, mais ensuite ça n'a pas tellement duré.
Et c'est pas spécifique à la France, hein, parce que comme on l'a dit, aux Pays-Bas, c'est la genèse de cette dynamique-là. Et même aux États-Unis, européens, mais aux États-Unis, on parle de bike boom. C'est un peu le terme qui est utilisé pour évoquer cette période-là où il y a une explosion des ventes dans les années 70, une grande mode qui s'est aussi liée à une évolution des attentes et l'apparition des enjeux environnementaux, en tout cas de la sensibilisation aux enjeux environnementaux, où c'est là où le vélo va devenir un objet écologique. En fait, c'est vraiment à cette période-là, qui est un peu post-68, début des années 70.
Un objet proprement écologique, parce que quand même pour être écologique dans les années 70, il fallait avoir une hauteur de vue que tout le monde n'avait pas, ou plutôt lié à une simple nécessité
C'est à ce moment-là qu'on commence à avoir un discours où à la fois, typiquement, tout à l'heure Frédéric parlait d'études sur les deux roues, et notamment les deux roues motorisées, que des sociologues, en s'intéressant aux deux roues, vont commencer à se rendre compte que les gens qui font du vélo par rapport aux gens qui font de la moto, c'est pas le même profil sociologique. Ils commencent à avoir une sorte de sensibilité un peu avec des enjeux, pour reprendre les termes de Bourdieu, de capital social et culturel, et que c'est plus seulement une question de rapport au capital économique. Et donc ça se matérialise à cette époque-là, et puis en plus il va y avoir le discours des militants et des intellectuels écologistes qui vont aussi marquer profondément la vision que vont avoir les usagers du vélo. Et typiquement, il y a la candidature de René Dumont, qui est le premier candidat écologiste en 1974 à l'élection présidentielle, qui lui va avoir un grand impact, on va dire, médiatique et politique au niveau national en France, parce qu'il va utiliser le vélo vraiment comme symbole de sa politique et de ce qu'il souhaite proposer en France en termes de politique, notamment énergétique et de mobilité.
Donc un rebond momentané dans les années 70 du vélo pour arriver aux années 80. Est-ce qu'on connaît ? On va se quitter dans les années 80. Et avant d'entamer le sujet par les concepts qu'ils sous-tendent, ou en tout cas, on va essayer, pour mieux mettre les mains dans le cambouis en dernière partie de cette émission, tout de suite, un titre de l'excellent groupe de trip-hop britannique Morcheeba, Enjoy the Ride. Chiffon, vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la radio, toujours sans pub, toujours sans système hiérarchique, et Le Chiffon est toujours le seul journal indépendant de Paris et sa banlieue pour une information trimestrielle qu'on veut de qualité, oui, osons le dire. Ce matin, avec nous pour penser la ville autrement, car il faut penser en système, nous avons comme excuse le vélo, mais il s'agit de repenser la ville. Un économiste des transports et urbaniste, Frédéric Errand, et un jeune docteur en aménagement de l'espace spécialiste de l'usage du vélo dans les banlieues, Clément Dussong. Avant d'entamer le vif du sujet, écoutons un instant David Le Breton, professeur à l'Université de Strasbourg, anthropologue et sociologue français, spécialiste notamment des mises en jeu et des représentations du corps humain, qu'on remercie notamment pour l'ouvrage En roue libre, Anthropologie sentimentale du vélo, paru chez Terre Urbaine en 2020. Écoutons ce qu'il a à nous dire sur l'éloge d'une certaine lenteur, d'un retour au corps et d'une ville différente. Et si nous n'arrivons pas à le lancer, car si, il est lancé, tout va bien.
En quoi serait, comme vous l'écrivez, un pied de nez aux valeurs libérales ? Alors, non seulement d'ailleurs aux valeurs libérales, mais aux valeurs de nos sociétés postmodernes, nos sociétés contemporaines, puisque là, finalement, le vélo, c'est une sorte d'éloge de la lenteur, un peu à la manière de la marche, hein, de la randonnée ou du fait d'être un piéton en ville, à la différence que le cycliste va tout petit peu plus vite et sans doute un tout petit peu plus loin. Mais le cycliste, évidemment, il est quand même cantonné à une vitesse de 10, 15, 20 km heure. En tous les cas, en ville, il peut sans doute aller beaucoup plus vite s'il est à la campagne sur une ligne droite ou sur une descente. Mais en tous les cas, il n'est pas pris dans le, il ne laisse pas le temps le prendre, quoi. Il prend davantage son temps. En même temps, en ville, évidemment, c'est un homme ou une femme d'une très grande efficacité, puisque quand on prend son vélo, on est absolument assuré d'arriver à l'heure sur le lieu de son travail ou sur le lieu d'un rendez-vous, alors que si on prend sa voiture, on ne sait jamais quels sont les obstacles qu'on rencontrera sur la route, ne serait-ce qu'un camion déboueur qui fait toute une rue et empêche la voiture de passer, ou un embouteillage, ou un accident, ou des travaux dans une rue. Aucun obstacle, évidemment, n'arrête le cycliste, qui de toute façon peut même prendre son vélo sous son bras pour aller un petit peu plus loin, mais de toute façon, il y a toujours d'autres routes par lesquelles il peut passer. Donc à la fois il est dans la lenteur, mais il est quand même pas mal dans l'efficacité. Et puis au-delà de ça, donc le vélo est aussi un retour au corps, évidemment. Donc il est aussi une forme de résistance. J'aime bien analyser la marche ou le vélo, comme je l'ai fait dans mes livres d'ailleurs, comme des formes de résistance à ces valeurs qui nous imprègnent aujourd'hui et qui nous gâchent la vie. C'est un retour au corps, donc dans ce que j'ai souvent appelé une humanité assise, où la plupart de nos contemporains se lèvent le matin pour s'asseoir au volant de leur voiture, s'asseoir devant leur écran dans leur travail ou même chez eux, et puis le soir rentrer pour regarder la télévision. Donc ce monde de la sédentarité, de l'immobilité, il est battu en brèche par ces millions de marcheurs, par ces millions de cyclistes qui aujourd'hui donc ont repris leur corps en main.
En quelques mots, vous dites que ça ne combat pas seulement les valeurs libérales, mais les valeurs postmodernes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Oui, alors donc j'ai déjà un peu évoqué la vitesse. J'ai donc allé contre la vitesse, mais en étant plutôt dans l'éloge de la lenteur. Finalement, d'ailleurs, le vélo, on pourrait dire que c'est un chapitre du mouvement slow qui se développe dans nos sociétés. J'ai évoqué également le retour au corps, le retour aux sensations, le retour à l'effort. Mais en même temps, c'est un effort bien paisible et bien tranquille. C'est finalement faire du vélo, c'est une manière de se sentir vivant. Donc là aussi, c'est une forme de résistance à l'encontre de sociétés qui voudraient nous immobiliser, à l'encontre de certaines valeurs sociales qui voudraient nous immobiliser, pour mieux nous contrôler sans doute, mais là je pense davantage aux GAFA qu'à des gouvernements quelconques. Le fait que nous soyons en permanence sous contrôle, là finalement quand on est sur son vélo ou quand on marche dans les forêts ou ailleurs, nous redevenons des hommes ou des femmes totalement libres. Personne en principe ne sait trop où on est, et puis on va où on veut. C'est-à-dire, on n'a pas. C'est aussi quand même un autre point intéressant, c'est que souvent le vélo et la marche sont gratuits pour la personne. C'est-à-dire, il n'y a pas d'utilitarisme, il n'y a pas une fonctionnalité, sauf bien entendu si on va à son boulot en vélo, où là effectivement c'est le plus efficace, c'est sans doute de prendre son vélo. Mais quand on fait une randonnée cycliste, par exemple, on va se balader, on a de compte à rendre absolument à personne, on va son chemin, on s'invente, on se réinvente, on retrouve une sensorialité du monde qui disparaît dans la vie. Oui, voilà. Et puis un autre aspect qui me plaît beaucoup dans le vélo, mais qu'on retrouve aussi dans la marche, c'est ce que j'ai appelé la disparition de soi, dans un autre de mes livres. Mais j'avais abordé cet aspect-là sous un angle douloureux, sous l'angle l'angle de la dépression, du burn-out, ces innombrables personnes qui ne veulent plus sortir de chez elles, qui se sentent meurtries par le monde. Mais le fait de cyclotourisme, par exemple, est une manière, une manière heureuse de disparaître. C'est-à-dire, vous êtes sur les pistes cyclables ou sur les sentiers de VTT dans les forêts, et puis voilà, vous avez disparu des radars, nul ne sait plus très bien qui vous êtes, et si vous dialoguez avec un autre cycliste qui est dans les parages, vous n'allez pas échanger vos cartes de visite, hein. Vous allez parler entre vous comme deux personnes qui aimaient la bicyclette, et puis voilà, de la même manière, deux marcheurs vont plutôt parler de leur marche plutôt que de dire attention, moi je suis médecin, attention, moi je suis pas n'importe qui, on s'en fout complètement. On est là plutôt comme des usagers de pratiques qui sont quand même quelque peu, qui demeurent un peu alternatives dans nos sociétés.
Vous dites écrire une anthropologie sentimentale du vélo. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre démarche, votre méthode ?
Oui, alors effectivement, mes autres livres sont davantage des livres d'anthropologie au sens plus traditionnel, plus classique. Là, dans mes livres sur la marche ou dans En roue libre, j'ai voulu plutôt citer énormément d'écrivains, citer de temps en temps des usagers, mais surtout énormément d'écrivains du vélo, c'est-à-dire faire moi-même faire une échappée belle, quoi, au-delà des exigences dites scientifiques et autres. Voilà, je trouve que finalement c'est beaucoup plus passionnant de citer, je sais pas, Dino Buzzati, si je parle du Giro, du Tour d'Italie, ou Antoine Blondin, si je parle du Tour de France, ou des cyclistes qui ont écrit sur leur expérience du vélo. Puis en plus, il y a toute une dimension historique, évidemment, puisque le vélo a une histoire qui n'est pas très longue, hein, par ailleurs, mais énormément d'écrivains du début du siècle, comme Zola, ou d'autres ont écrit aussi sur le vélo. Donc c'était passionnant de retrouver tous ces textes et puis de les commenter à la lumière d'aujourd'hui. Donc c'est plutôt, dans ce livre, je suis plutôt dans une balade cycliste en quelque sorte, et je n'avais pas envie d'avoir un appareil scientifique, entre guillemets. C'est sentimental aussi parce que j'évoque pleinement, j'évoque quelques moments, quelques souvenirs d'enfance, hein, les moments où j'ai appris moi-même à faire du vélo, quand ma grand-mère m'a offert un vélo mi-course à l'époque, comme on disait, après mon BEPC, etc. Mais je sais très bien qu'en évoquant ces souvenirs-là, ça va résonner chez d'innombrables lecteurs qui vont se dire, mais oui, moi je me rappelle mon premier vélo, etc., etc. Vous voyez, c'est donc davantage des textes, un texte impliqué en quelque sorte, où les émotions du chercheur sont présentes dans l'écriture du texte.
Pour reprendre certains concepts du philosophe Henri Bergson, vous commencez à l'aborder. Est-ce que le vélo ne nous permet pas de renouer avec la durée intuitive, donc éprouvée par le corps charnellement, en opposition au temps objectif désincarné du vélo, pardon, du métro, de la voiture ou de la trottinette électrique, qui a son actualité?
Oui, absolument. C'est une manière effectivement de vivre une expérience présente, d'être immergé dans l'instant, mais aussi à la manière des marcheurs, parce que il y a beaucoup de similitudes, hein, entre l'extraordinaire engouement pour la marche dans nos sociétés contemporaines et ce retour fulgurant également au vélo depuis quelques années, non seulement pour des raisons écologiques, mais aussi pour des raisons pratiques et aussi pour des raisons de plaisir, hein, d'être sur son vélo. C'est vrai que quand on roule, on se sent vivant, on se sent exister, on a l'impression qu'on peut s'arrêter à tout moment, qu'on peut faire des pointes de vitesse. Hein. Je crois qu'on a beaucoup en tête, hein, des moments du Tour de France ou des grandes classiques où on s'imagine un petit instant être dans un sprint final ou dans une côte, redevenir un grand grimpeur du Tour de France, etc. Je crois qu'on a tous cet imaginaire, vous voyez. Le vélo mobilise en permanence un imaginaire. On est toujours à la fois sur sa bicyclette et puis un petit peu ailleurs, parce qu'à la fois on se rappelle de moments d'enfance, on revit des moments de course cycliste, et puis on regarde autour de soi le paysage, les gens qu'on rencontre, etc.
Alors, le vélo à la campagne, c'est une chose. À vrai dire, est-ce que nous fantasmons pas en partie le pouvoir que le vélo aurait d'instaurer une ville sereine et conviviale par la seule force de son utilisation. Et, en fait, plus fondamentalement, est-ce que ça n'est pas, selon vous, notre position de d'homo urbanus, je pourrais dire, plus fondamentalement, qu'il faut remettre en question?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est-à-dire que le vélo n'est qu'un outil, mais en ce moment il est quand même un outil précieux dans la mesure où il change justement l'organisation des villes, il change l'urbanité, j'ai envie de dire l'urbanité aussi dans les deux sens, puis quand on dit de quelqu'un que c'est vraiment un homme, un homme très urbain, etc., on veut dire que c'est quelqu'un de très civil, de très qui est attentif aux autres et autres. Eh bien, il faut absolument qu'on retrouve en effet l'urbanité de la ville en quelque sorte, c'est-à-dire sa convivialité et donc la coexistence entre différents modes de mobilité, comme par exemple les transports en commun, le fait d'aller à pied, mais aussi évidemment les voitures. Mais je crois qu'il faut limiter maintenant de plus en plus la circulation automobile, parce qu'elle est quand même la plus dangereuse, elle est la plus dévorante d'espace. Vous pouvez garer une quinzaine de vélos là où vous garez une seule voiture. Et puis également, il est nécessaire de limiter la vitesse en ville. 50 km/h, aujourd'hui ça n'a absolument aucun sens. Je crois qu'il faut limiter dans la plupart, dans toutes les villes à 30 km/h, mais en modulant. C'est-à-dire qu'il y a sans doute des espaces en ville où il vaut mieux rouler à 20 km/h par exemple, parce que dans les parages il y a des écoles, il y a des cyclistes, il y a des piétons, et puis dans d'autres endroits on peut peut-être imaginer 40 km/h parce que c'est une ligne droite sur un grand boulevard où il n'y a pas grand monde et où il y a des pistes cyclables qui sont bien dégagées de la route. Mais ça, je pense que le vélo n'est qu'un outil entre les mains des municipalités, entre les mains des régions, etc. Et il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui font du bon boulot, quoi, dans les villes, même parfois dans les campagnes, en élaborant des pistes cyclables. Je le vois dans les Vosges, par exemple, où on peut faire une trentaine de kilomètres en toute sécurité sur le bord de la route, sur le bord des nationales, en traversant des forêts, etc. Et les marcheurs, d'ailleurs, peuvent emprunter les mêmes pistes cyclables. Là aussi, on est dans une coexistence entre les marcheurs et les marcheurs et les cyclistes. Je pense que c'est quand même une bonne part de l'avenir.
Merci beaucoup, David Le Breton.
C'est moi qui vous remercie.
Alors, merci beaucoup, Chiffonnier intervieweur, pour cette intervention. C'était donc David Le Breton que vous avez confié me connaître. Nous reviendrons tout à l'heure sur les changements urbains et sur le développement du vélo. Mais avant l'asphalte et le cambouis, j'aimerais vous revenir un peu sur quelques notions qui ont été évoquées ça et là dans cette interview. Est-ce que vous avez à réagir à cette notion d'une humanité assise et ce que vous dénonciez comme un fléau de la sédentarité ?
Oui, on est tous d'accord pour dire aujourd'hui que la sédentarité est vraiment un énorme problème. Et ce qui motive, ce qui semble être le premier motif de retour au vélo aujourd'hui, eh bien c'est de se bouger, d'être actif pour réduire la sédentarité. C'est en tout cas, quand on interroge les cyclistes, le premier motif de retour au vélo. Le second, c'est le côté économique, bien sûr. C'est-à-dire que ça permet quand même des économies non négligeables par rapport à la voiture, mais même au transport public aussi. Et enfin, arrive en bon dernier l'argument écolo, qui n'est certainement pas le premier argument. Beaucoup de journalistes croient que c'est l'argument principal, mais non. C'est vraiment toujours, ça arrive toujours en dernier.
Et si je me permets de rebondir aussi là-dessus, ça permet de faire le lien avec ce qu'on a dit au début de nos premières discussions sur ce rapport à l'effort, c'est que avec la motorisation, on va dire, croissante des Trente Glorieuses et le fait qu'on ait fait moins d'efforts justement pour se déplacer avec une réduction de l'usage de la marche et du vélo, et ben en fait on s'est habitué à un système de mobilité, mais aussi qui était dans un contexte où l'effort physique, notamment dans le travail, était aussi plus important. Et forcément aussi on a aujourd'hui un rapport au travail où en fait il y a de plus en plus travail d'employés ou de cadres où on a du travail assis, et donc forcément ce rapport à l'effort lors de la fin de la journée de travail, il est aussi davantage possible ou imaginable. Il faut s'imaginer. Aujourd'hui, on parle beaucoup de rapport à la pénibilité du travail dans le cadre de la réforme sur les retraites. Mais voilà, il faut s'imaginer aussi que quand on avait une population qui était majoritairement ouvrière avec des tâches physiques et difficiles, forcément, bah, faire du vélo, c'était aussi vu comme une activité physique supplémentaire. Aujourd'hui, bah, on se sédentarise, on a moins d'activité physique dans nos quotidiens. Forcément, cette pratique-là, elle est vue de manière plus positive. Et c'est comme ça qu'on a ce retournement d'une activité physique vélo-marche forcée à quelque chose d'aujourd'hui plutôt positif. Il y a aussi ce rapport avec une dialectique liée à l'évolution de nos modes de vie et de nos modes de travail.
Et selon la catégorie socio-professionnelle à laquelle on Exactement. Appartient. Et d'ailleurs, ça m'amène à ma prochaine question. Est-ce que cet objet pourrait devenir un peu un totem qui permettrait un peu de se raconter de belles histoires concernant le vélo, sa capacité à changer la vie individuelle, la société, la galaxie, allons-y, hein, de toute façon.
Oui, bah, moi je pense que c'est l'image et la façon dont on imaginait le vélo depuis les années 70, mais je pense que c'est vraiment lié à cette période-là. Alors ça a pu exister un peu avant dans certains discours, mais c'est quand même lié vraiment à cette période-là. Et moi je pense que ça va évoluer, et je pense que ça évolue déjà, et d'ailleurs on le voit avec l'apparition typiquement du terme « vélo-taf », qui est un terme très contemporain, un terme fin des années 2000, qui est le terme pour désigner cet usager du vélo qui va au travail à vélo, justement, où ce trajet, c'est un trajet de vélo-taf. Donc voilà, on spécifie vraiment ce rapport entre trajet domicile-travail à vélo. Et alors que justement, le militantisme pro-vélo des années 70, c'est quand même un militantisme qui est plutôt écologique, anticapitaliste, et qui questionne ce rapport-là au travail. Et donc, moi, j'ai envie de dire un peu, les militants vélo et le vélo voulaient un peu changer le monde, et au final, c'est un peu le monde qui l'a adapté à sa sauce, et on le voit bien aussi aujourd'hui avec les pratiques du vélo actuel. On reviendra sûrement peut-être après sur la question du VAE. C'est aussi le monde qui a un peu réadapté ce vélo justement pour répondre à des enjeux qui sont liés à notre système de production et de travail et de mode de vie actuel.
Oui, bah, allons-y, plongeons dans le VAE si vous voulez. Je sais que le chiffonnier intervieweur de David Le Breton tenait à cette question. Est-ce que finalement, tout ce narratif magnifique n'est pas une manière aussi de ne surtout pas contredire le modèle absolument productiviste et toujours une espèce de fuite en avant, concept dont on reviendra tout à l'heure dessus d'ailleurs.
Oui.
Allez-y, Frédéric.
Productivisme et vélo, c'est un peu compliqué à voir. Bien entendu, le vélo n'échappe pas à ce débat, enfin à ce questionnement. On peut très bien intégrer le vélo comme une façon efficace, toujours plus efficace de travailler, mais on peut aussi le voir autrement. En tout cas, depuis les années 70 au moins, et même bien avant, le vélo a été un moyen d'émancipation. Alors, on le sait dès la fin du 19e siècle, c'est notamment un moyen d'émancipation des femmes, je crois que vous le dites dans le chiffon, mais considérable. Enfin, c'est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui, avec les vélos-écoles qui sont fréquentés. Oui, vous montrez un papier, mais je ne vois rien, désolé.
Aujourd'hui, voilà, c'était juste pour recentrer le propos sur aujourd'hui, le temps file.
D'accord, donc ce sera un sujet que vous aborderez, je crois, par ailleurs, hein, c'est ça?
Oui, et nous allons faire une émission.
Je ne vais pas en parler, mais... Enfin, bref, le vélo a toujours été un outil d'émancipation, de liberté, d'autonomie, mais on peut aussi le voir comme un instrument d'efficacité accrue dans les embouteillages, un moyen d'arriver à l'heure au travail, enfin, un moyen d'être plus productif parce que vous arrivez le cerveau irrigué. Et c'est vrai, hein, il y a des études qui montrent que les cyclistes sont plus productifs au travail, ont moins de problèmes de santé.
Que les enfants aussi. Les enfants sont plus concentrés pour travailler à l'école, etc. Donc, et c'est drôle parce que du coup, c'est un peu une bascule, on va dire, pour caricaturer, de valeurs de gauche et plutôt écolo dans les années 70 à aujourd'hui, un spectre, on va dire, des valeurs du vélo, non pas qui est remplacé, mais plutôt qui s'ouvre avec d'autres valeurs possibles et qui sont un peu complémentaires, parce que c'est jamais, avec la diffusion d'un mode de vie, c'est jamais un remplacement, mais c'est plutôt une diversité, une diversification des façons de voir l'objet, de façons de voir la pratique. Et comme a dit Frédéric, il y a ces nouvelles valeurs qu'on n'imaginait pas, en fait, dans les années 70. Et typiquement, avec différentes crises qu'il y a eu récemment avec le Covid, que ce soit les grèves ou que ce soit les crises énergétiques, ben voilà, le discours est promu par une certaine élite politique, par une certaine classe politique aussi, parce qu'il y a toutes ces valeurs qui sont attachées et qui rendent une pratique enviable du vélo.
Oui, le vélo n'est pas bon en soi, vous voyez, c'est un objet technique qui peut être approprié, comme on l'entend, de différentes façons. Il y a plein de manières de faire du vélo, de se l'approprier. Et ce n'est pas forcément anticapitaliste, le vélo, même si c'est vrai, il peut porter des valeurs anticapitalistes ou des valeurs d'émancipation. Hein. Mais il peut aussi porter des valeurs de productivité.
Ce qu'on peut voir, c'est un petit peu le parallèle avec le processus rhétorique du lavage vert, c'est-à-dire qu'on avance, là, ce qu'on entendait un petit peu avec M. Le Breton, retrouver le corps, l'autonomie, un mieux-être qui, au final, ne sert que des impératifs qui ne sont pas forcément en accord direct avec les intérêts des intéressés, si je peux dire.
Je sais pas, mais je pense que c'est toujours une dialectique compliquée. C'est jamais, comme je l'ai dit juste avant, c'est jamais un remplacement total des valeurs et des façons de faire. Parce qu'encore aujourd'hui, en fait, je pense qu'il suffirait d'aller dans l'espace public, à Paris ou en banlieue, et demander aux gens, observer les gens qui font du vélo, pourquoi ils le font. Je pense qu'on a vraiment, ça devient sûrement représentatif des valeurs et de la population, comme c'est le cas dans les transports en commun sûrement, comme c'est le cas avec la marche, comme c'est le cas avec la voiture en fait. Et le vélo n'est qu'un mode de transport comme les autres, entre guillemets. C'est peut-être un peu délicat à entendre pour certains militants du vélo, mais moi je pense que c'est un mode de transport comme les autres, qui évidemment peut-être, contrairement à la voiture par exemple, crée des nuisances qui sont pas du tout des mêmes échelles, c'est pas du tout les mêmes échelles de problèmes, mais ça crée les mêmes enjeux, notamment en termes de vision, en termes d'objets de déplacement. Ça reste un mode de déplacement.
C'est intéressant, c'est une pensée qu'on entend un petit peu moins, mais du coup le vélo un peu comme une espèce de chapelle pour certains des défenseurs les plus radicaux, avec une pensée un petit peu qui pourrait avoir des tendances dogmatiques à certains moments, alors que c'est un moyen de transport comme un autre,
et pas forcément... Je vais élargir un peu la focale, comme on dit aujourd'hui. L'usage utilitaire du vélo, dont on parle aujourd'hui, mais c'est vraiment pas le seul. On a au moins 4 grands usages utilitaire, de loisirs, ludique, ou le jeu, le vélo comme jeu, et sportif. Et ces 4 grands usages du vélo se pénètrent, enfin sont plus ou moins liés. J'avais essayé il y a une dizaine d'années de situer les différentes pratiques du vélo dans ce quadrilatère formé par ces 4 types d'usages. Et c'est impressionnant. J'avais découvert 25 pratiques et donc cultures différentes du vélo derrière qu'on pouvait situer sur ce rectangle. Et il y en a en fait bien plus, parce qu'entre temps j'en ai découvert d'autres. Et c'est, vous voyez par exemple le cargo cycle. Bon, c'est un usage utilitaire, mais c'est aussi familial. Il y a un côté ludique.
Notre journal est d'ailleurs vendu dans toutes les manifs en cargo-cycle. On en atteste.
Le cargo-cycle, c'est un mode de vie pour certaines familles. Vous avez même des associations de familles qui utilisent des cargo-cycles. Enfin, bon, après, on peut prendre d'autres éléments.
Vous parlez de l'artisanat aussi, des petits artisans qui peuvent optimiser leurs pratiques par le vélo.
On a aussi cela, du transport utilitaire.
Et puis il y a eu des courses de transport utilitaire, de mode de déplacement à vélo cargo pendant les années 30, et notamment à Paris pendant la guerre. Il y a eu des courses de vélo cargo, c'était classique, ou des courses de vélo taxi aussi, pour rester sur les...
De livreurs de journaux.
De livreurs de journaux. Ouais. Enfin voilà, il y a toute cette hybridation dont parle Frédéric aussi. On l'a eu aussi avec les liens entre pratiques sportives et pratiques du quotidien, où il y a toujours un lien. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, les pratiques sportives qui sont à la mode, qu'est-ce que c'est? C'est le VTT, c'est le BMX, c'est des types et des formes d'usage du vélo, on va dire du quotidien, ou en tout cas que des usagers peuvent faire, qui sont à la mode dans les pratiques sportives, là où dans les années 30, ce qui est à la mode, c'est le tandem, les courses de tandem. Aujourd'hui, jamais on verrait des courses de tandem à la télé, où les gens ne suivraient jamais ça, parce que plus personne fait du tandem. Donc il y a toujours ce lien entre ces différentes pratiques qui font écho et qui rebondissent entre elles sans cesse. Oui.
Et même le tandem aujourd'hui est en pleine révolution, parce qu'on a maintenant des nouveaux types de tandem qu'on n'imagine même pas, avec quelqu'un en position couchée à l'avant et en position plus classique à l'arrière, et c'est d'une efficacité redoutable. C'est des tandems familiaux, bref, c'est tout un monde, toutes ces cultures du vélo et ces différents usages et qui sont effectivement toujours plus ou moins liés. Je sais pas, autre exemple, les livreurs à vélo. Bah, ils ont en même temps une pratique sportive, parce que si vous livrez toute la journée à vélo, vous avez des muscles d'acier, hein, je peux vous le dire.
Frédéric, vous releviez que la part modale du vélo représente environ 3% des déplacements quotidiens. Nous serions en queue de peloton. Chaque Parisien doit savoir qu'un trajet de moins de 5 km est plus efficace en vélo. Par comparaison, vous citez le centre-ville de Strasbourg où elle serait de 15%. Et donc le vélo utilitaire est en pleine croissance, et à Paris, on avait 0,5% de part modale, on arrive à 4 ou 5%. Est-ce que cette croissance est amenée à stagner par l'aménagement urbain qui peut-être...
Ces chiffres-là datent un peu, je me permets de reprendre ces chiffres cités par Frédéric, mais ils datent un peu, et malheureusement nos enquêtes de mobilité qui nous permet d'avoir un peu des photographies, des manières de se déplacer des franciliens ou même des français sont faites souvent à un intervalle à peu près de 10 ans. Donc le chiffre de 3% de part modale des Parisiens sur le vélo date de... Oui, ça c'est de France, mais je ne sais plus si c'est...
4 à 5% pour Paris. C'est la France, oui.
C'est la France, mais en tout cas à Paris, on était sur ces chiffres-là en 2010 dans la dernière enquête qu'on a à disposition. Donc 2010, ça remonte, il y a eu beaucoup d'évolutions. Et donc tout ça pour dire qu'on a une forte évolution de la pratique, qu'on a encore du mal un peu à estimer, parce qu'on n'a pas des chiffres vraiment très fiables, mais c'est sûr qu'on est sur une augmentation incessante. Et Frédéric faisait cette analyse pour comprendre l'évolution, c'est qu'on a souvent une pratique qui dépasse rarement les plus 12% par an. Et donc, en fait, c'est souvent en fait, selon ce rythme-là qu'on évolue, avec évidemment des variations, peut-être selon les années, selon les moments de crise, typiquement ce qu'on a eu avec le Covid. Donc, globalement, on est sur une pente croissance de la pratique qui est plutôt linéaire, mais avec des accidents. Et je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, en France, il n'y a pas de territoire qui est arrivé, on va dire, au plateau et qu'on est encore sur une croissance importante.
Et pour vous, est-ce que ça tiendrait au dispositif réglementaire? Est-ce qu'il serait inadapté à un essor encore plus important? Frédéric, vous disiez que si on respecte strictement le code de la route en tant que cycliste, c'est la mort. Une priorité à droite, un carrefour et c'est le drame. Est-ce que vous auriez des préconisations juste du point de vue réglementaire, déjà, tout simplement?
Ah bon, alors oui, alors si on aborde la question du code de la route, c'est un vaste sujet. Le code de la route, il a une histoire. Il a été créé en 1921 pour les automobilistes, et on a raccroché ensuite progressivement les autres modes en disant il faudrait qu'eux aussi qu'ils soient soumis à ce code. Bon, et en fait, fondamentalement, dans le code de la route, tout le monde est mis sur le même plan. Or, ça n'échappera à personne, un piéton, un cycliste n'a jamais renversé une voiture. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout de même nature. Ils n'ont pas la même masse, pas la même vitesse, pas la même visibilité. Il n'y a pas d'angle mort à vélo, vous voyez, par exemple. Enfin, et donc, considérer que le cycliste doit avoir le même comportement que l'automobiliste sur la route, d'ailleurs la route c'est un problème, et c'est la rue aussi, hein, qu'il faudrait dire. Donc, bref... Considérer que le cycliste doit être mis sur le même plan que l'automobiliste, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et l'exemple type, c'est la priorité à droite. Tous ceux qui font du vélo, si vous avez priorité, surtout ne forcez pas. C'est pas parce que vous avez la priorité que vous pouvez passer... Non, il faut absolument s'assurer que l'automobiliste qui arrive vous a vu et a commencé à ralentir. Sinon, vous risquez d'en mourir, quoi. Donc, on n'est pas égal du tout quand on est automobiliste et cycliste.
Et il y a un combat qui est mené actuellement pour essayer de faire évoluer cette législation.
Oui, il y a déjà eu plusieurs évolutions. En 98, en 2008, en 2015 ou 14, je ne sais plus. Il y a déjà eu plusieurs évolutions du code de la route pour essayer de faire en sorte que les cyclistes, les piétons, soient mieux pris en compte. Mais il y a encore du boulot. Donc, par exemple, pour reprendre le cas de la priorité à droite, en Californie, dans un carrefour avec priorité, il n'y a pas de priorité. Il y a des stops à toutes les branches du carrefour. Des stops à toutes les branches. Et tout le monde est donc obligé de s'arrêter. Ça, c'est beaucoup plus sûr pour un cycliste. Il faudrait migrer vers un dispositif de ce genre, que la priorité à droite soit interdite. C'est ça qu'il faudrait faire. C'est une des propositions, une des 50 propositions d'amélioration du code de la route qui est dans les tuyaux et qui avance très lentement.
Dans les projets, aussi dans les tuyaux, Clément, où en est-on de la politique de la RATP en faveur du vélo? Est-ce que c'est toujours dans les tuyaux?
Alors oui, je m'étais intéressé à cette question il y a quelques temps pour montrer justement qu'il y avait une politique très volontariste de la RATP dans les années 90 et début 2000. Et en fait, ce qui était à une période où justement ce consensus autour du vélo était moins avancé. Et donc c'est vrai qu'il y a une politique assez forte à l'époque, notamment avec le déploiement de stationnement vélo, déploiement de services de location. Et au final, bon bah, comme souvent en fait sur des histoires de politique publique, il y a évidemment une demande citoyenne, mais il y a aussi un relais, on va dire, chez les décideurs, de mettre en avant certaines politiques, d'allouer des moyens humains et financiers. Et au final, la RATP a un peu ralenti sur la politique en faveur du vélo sur les années 2000. Et aujourd'hui, timidement, on commence à retrouver une politique en faveur du vélo, mais la RATP est toujours un peu frileuse à l'idée de s'intéresser aux autres modes de déplacement. Et on revient sur ce qu'on a dit dès le début, la mobilité, c'est un système, et en fait, bah, les usagers des transports en commun, ce ne sont pas uniquement des usagers des transports en commun. Ils viennent à la gare, ils viennent à la station de métro, bah, à pied, à vélo, peut-être en voiture aussi dans certains territoires de l'Île-de-France. Donc il y a un intérêt pour l'opérateur de transport en commun de s'intéresser à ça, mais encore aujourd'hui, ça reste encore frileux. Et là, on voit bien aussi qu'on hérite de culture en France qui est quand même assez forte sur les transports publics et notamment sur le transport ferré. Où il y a un peu une séparation un peu monomodale, chacun s'occupe de son mode et comme ça tout ira bien. Mais on voit bien qu'il y a un intérêt d'hybrider et de penser typiquement le rabattement des cyclistes en gare, l'emport du vélo dans les trains de banlieue typiquement. Ça, c'est quelque chose que les cyclistes demandent depuis les années 70, depuis les premiers mouvements cyclistes écologiques des années 70. L'idée, c'est aussi de promouvoir cette intermodalité vélo-train et qui aujourd'hui est encore en France assez balbutiement, parce que voilà, on a démonté pas mal de politiques et pas mal de services qui étaient déjà présents.
Je te trouve bien gentil, Clément, parce que la RATP a tout arrêté d'un coup, hein. Il y a eu 12 ans de politique pro-vélo, et puis du jour au lendemain, nouveau PDG arrive, nouvelle équipe dirigeante qui se demande à quoi ça sert, ça, et qui arrête tout d'un coup. Bon, mais par ailleurs, je suis entièrement d'accord avec toi. Oui.
Juste, alors, nous sommes très en retard dans cette émission, toute la structure est bouleversée, mais avant de prendre quelques minutes, j'aimerais juste une petite invitation au voyage. On entendait David Le Breton qui évoquait la disparition du monde pour y réapparaître autrement, où les qualités de médecin, docteur ou autre n'auraient plus court. En tant que randonneur passionné personnellement, j'ai pu observer ce sentiment. Est-ce que vous avez vous-même une pratique de disparition volontaire?
Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Qu'est-ce que c'est la pratique de disparition volontaire? Est-ce que tu peux nous préciser?
Dans la fin de l'intervention de Monsieur Le Breton, c'est la pratique du vélo de randonnée, de la marche longue, ou la rencontre au milieu d'un bois occasionne d'autres choses que la
moi, je citerai Catherine Berthelavenir, qui est une chercheuse qui s'est intéressée à la pratique touristique et au cyclotourisme, à l'émergence du cyclotourisme, notamment à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, et qui nous dit qu'en fait, dans les années 70-80, le vélo, en fait, n'a pas vraiment d'autre choix que d'aller là où il peut être encore peinard, c'est-à-dire au milieu de la forêt, au milieu des bois, sur les petits chemins. Et c'est ce qui s'est passé aussi un peu avec le randonneur, c'est qu'en final, en fait, nos villes et les routes sont devenues tellement encombrées et notamment tellement devenues une forte nuisance de l'automobile qui, en fait, c'était presque un repli qui était indispensable. Et pour rebondir sur la question, désolé, je réponds pas d'un point de vue personnel, mais j'essaye de comprendre un peu nos pratiques à l'aune de ce qui se passe d'un point de vue global sur nos mobilités. Et en fait, le vélo, c'est là où il a pu se refaire une santé. Et de la même manière qu'au niveau individuel, c'est là peut-être où on va pouvoir profiter d'un cadre, de la tranquillité, d'aller écouter les oiseaux, etc. C'est aussi à l'endroit où le vélo va pouvoir se refaire une santé et se recréer une image positive, notamment avec le VTT, avec la pratique du vélo ludique. Alors que les militants du vélo, notamment ceux qui prônent le vélo utilitaire, vont toujours essayer de défendre, de dire le vélo c'est pas que ça, mais mine de rien en fait, le vélo a pu redorer son blason grâce à cette pratique là, grâce aussi à une évolution technique du vélo avec un vélo plus moderne, avec le VTT, avec les manivelles de changement de vitesse au guidon, avec les suspensions, des vélos vraiment plus techniques. Et donc pour dire que cette appropriation de la pratique et ce qu'on aime dans cette pratique, peut-être au milieu des bois, au milieu des chemins, c'est aussi parce que, encore une fois, il y a toujours la place de la voiture et de cet espace public en ville qui a été totalement capté et approprié par la voiture. Et je pense que nos envies individuelles, elles s'insèrent toujours dans une dimension beaucoup plus globale et politique.
se retirer de l'espace urbain complètement bloqué. Vous l'aurez compris, ce matin, la mobilité est à penser en système. Alors, disparaissons musicalement quelques instants avant la dernière partie de cette émission qui va nous amener vers les méandres d'un urbanisme à taille inhumaine. Et voyageons tout de suite dans la ville du péché avec un classique de ce qu'on appelait à l'époque le hard rock, AC/DC, Sin City.
Just spin that wheel, cut that back.
Et de retour de la ville du péché, vous êtes toujours sur Radio Libertaire pour cette dernière partie d'émission. C'est toujours Le Chiffon, le journal indépendant de Paris et sa banlieue. Et on revient en terre francilienne avec deux experts de tout ce qui nous fait nous mouvoir, SUV et Hummer excepté. Frédéric Errand et Clément Duzan. Deux spécialistes de la mobilité centrés autour de ce qui comporte dérailleurs et pédales. Frédéric, vous avez une équation tout à fait évocatrice pour décrire la voiture comme un moyen de transporter 100 kg de chair humaine avec 1,5 tonne de métal et de plastique. Vous dites que dès que les transports publics sont bloqués, la voiture coince, elle prend toute la place et bloque tout. Elle aurait façonné le paysage urbain, emploi et logement seraient dispatchés en fonction des moyens de mobilité. Plus celle-ci est facile, plus le travail est éloigné du domicile. Et vous parlez carrément de zones ségrégées, avec une dichotomie est-ouest de Paris. À l'ouest se situerait plus le bassin d'emploi, et à l'est les logements. Pouvez-vous un peu nous...
Je vais préciser d'abord un point là que vous avez évoqué. C'est bien pire. Une voiture transporte en moyenne 110 kg de personnes et de charges. Okay ? Elle pèse en moyenne 1,250 tonnes. Et, ce qu'on oublie toujours, son empreinte matière est de 7 à 10 tonnes. C'est-à-dire que pour produire une voiture, il faut aussi des mines pour extraire les minerais, les métaux qu'on va raffiner, construire une usine pour fabriquer la voiture, construire des systèmes de transport pour trimballer ces voitures, les amener aux clients, etc. Plus le recyclage, enfin bref, l'empreinte matière d'une voiture, c'est 7 à 10 tonnes. Donc quand on voit une voiture dans la rue avec une personne à bord, il faut comprendre qu'il faut 80 fois plus de charge, enfin de matière, donc autrement dit, 8,5 tonnes pour seulement 110 kilos, ça fait 1 à 80 comme rapport. C'est juste... impossible de continuer comme ça éternellement. Quoi. Enfin,
tout ça pour rallier un travail qui est à 1h30 de chez vous.
Oui, nous vivons dans un monde fini, et bien sûr que ça ne va pas être durable. Donc, ce qu'on ne nous dit toujours pas aujourd'hui, c'est qu'en 2050, c'est pas très loin, il y aura moins de voitures parce qu'on n'aura pas assez de matériaux pour les fabriquer. Voilà. Après, je peux vous répondre à... Mais peut-être que.
Mais oui, parce que Frédéric Errand a délicatement évité la question sur la séparation des fonctions. Mais du coup, j'ai pu faire le travail dans ma tête, j'ai pu répéter mes gammes.
Et faire un peu le mien d'ailleurs en répétant la question, merci.
En fait, c'est Le Corbusier dans les années 30, avec la Charte d'Athènes, va théoriser la séparation des fonctions. Il va dire dans une ville, il faut des espaces pour habiter, des espaces pour travailler, des espaces pour le loisir et des espaces pour circuler. Et du coup, il y a quatre grands types d'espaces qui vont être conceptualisés à ce moment-là. Et l'idée, c'est que dans les pensées fonctionnalistes des urbanistes et des architectes de l'entre-deux-guerres jusqu'aux années 70, ça va être vraiment de diviser l'espace selon ses fonctions. Et donc, on va typiquement dans les villes modernes qu'on va créer à cette époque-là, on prend souvent l'exemple de la capitale brésilienne Brasilia, on va réfléchir la ville selon ces quatre grandes fonctions. Et donc, ça va forcément créer des déplacements qui sont extrêmement compliqués à gérer, puisque du coup, il n'y a pas des déplacements sans cesse dans tous les sens de la ville au quotidien, comme il peut avoir par exemple dans Paris intramuros, presque, parce qu'il y a forcément des polarités avec des espaces de travail et plutôt des espaces de logement. Mais on a des déplacements un peu dans tous les sens. Il faut penser qu'à Brasilia, en fait, tous les matins, on a les gens qui partent de leurs espaces d'habitat pour aller aux espaces de travail. Ils vont tous en même temps le matin. Donc, on a des bus qui sont remplis et qui fonctionnent que le matin. Et puis après, plus de déplacements, plus rien. Et la même chose le soir, etc. Donc, forcément, ça crée des problèmes de gestion de la mobilité, mais ça aussi, ça appauvrit, on va dire, la ville et les échanges et les qualités de la ville et de ce qu'est la vie urbaine en termes d'échanges, de sociabilité, de mixité des fonctions. Donc on a une vision d'un côté qui est, on va dire, monofonctionnelle, à une vision qui est plutôt polyfonctionnelle ou multifonctionnelle, ou c'est plutôt vers ce quoi on tend aujourd'hui en termes de politique. Donc on essaye un peu d'oublier, de retravailler avec les erreurs qu'on a pu faire pendant cette époque-là.
Frédéric, la notion que vous avancez, que je vous ai entendu avancer en tout cas à plusieurs reprises, c'est cette notion d'urbanisme mixte. Est-ce que ce serait une réponse à cette ségrégation absolue?
Oui, bien sûr,
du territoire?
c'est un urbanisme multifonctionnel, comme l'a bien dit Clément, qui c'est l'avenir et tout le monde aujourd'hui s'efforce de faire cela. Mais il ne faut pas croire qu'avec un tel urbanisme, on fera obligatoirement des déplacements moins longs. C'est plus compliqué. Certes, ça permet, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante, pour réduire la longueur des déplacements. Pourquoi ? Parce que quand on a une voiture, on l'utilise. C'est très simple. La possession d'une automobile entraîne un usage important. Et donc, si on utilise moins la voiture dans un urbanisme multifonctionnel, mixte, de proximité, on dit aussi, qui favorise la proximité, eh ben on utilisera plus la voiture pour les loisirs, pour d'autres motifs. Et au total, on s'aperçoit que les gens qui vivent dans un urbanisme mixte font pas forcément moins de déplacements. Ils vont peut-être aussi utiliser l'avion, j'avais oublié. Malheureusement, c'est pas ça qui suffira. Si on veut réduire vraiment le trafic auto, le moyen canonique fondamental, c'est de réduire le coût. Enfin, c'est d'augmenter le coût généralisé, c'est-à-dire augmenter à la fois le coût du déplacement et le temps de déplacement, la valeur du temps de déplacement. Et quand on agit sur... quand on complique, en fait, hein, pour le dire simplement, le trafic auto, quand on réduit la vitesse, quand on rend moins facile le stationnement, qu'on rend payant le stationnement, par exemple pour les deux roues motorisées, on l'a fait récemment, et ben on a des résultats énormes. Si je prends l'exemple du stationnement des deux roues motorisées, à Paris, c'est incroyable. Regardez tous ces espaces qui ont été libérés grâce à ça, devant la gare, devant les gares, on n'a plus du tout le chaos qu'on voyait avant. Tous les deux roues motorisées ventouses, qui servaient pas beaucoup ou quasi jamais, ont disparu. C'est très important de travailler, d'augmenter ce coût généralisé, c'est-à-dire le coût du déplacement et coût de la valeur du temps.
Donc la contrainte fiscale, notamment, comme un des leviers. Et sauf qu'on...
C'est pas fiscal,
l'aspect contraventionnel, etc.
Non, c'est tout simplement... la tarification, hein, c'est le fait de tarifer le stationnement, je vous assure. Alors, après, évidemment, il faut nuancer cela. Souvent, c'est seulement un tarif... on parle d'effet signal, mais voilà.
Mais sauf que le problème, et c'est quelque chose que vous avez relevé également, nous sommes un peu toujours victimes de cet urbanisme qui a été pensé il y a déjà plus de 50 ans, et il y a cet exemple symptomatique qui m'a ébahi, l'aspect inexorable de cette tendance avec la Défense. Vous expliquez, donc ce quartier qui repose sur une dalle, et le coût d'entretien de cette fameuse dalle est tellement faramineux que le quartier continue à s'étendre pour pouvoir obtenir des redevances et des droits d'exploitation de construction d'un quartier qui a été en partie dépeuplé par le Covid. Donc pouvez-vous un peu nous expliquer ce mouvement de fuite en avant
On revient sur la question de la résilience en fait des espaces, et comme là on a des espaces qui sont justement, c'est le cas de la Défense, on a un espace qui est monofonctionnel avec uniquement quasiment de la fonction de travail, bah forcément cet espace au moment où la fonction travail elle n'est plus là, et ben en fait ces espaces sont plutôt résilients parce qu'il se passe du coup on a des espaces qui sont relativement vides. Et donc, il y a le cas de la Défense, mais en Ile-de-France, il y a plein d'autres politiques d'urbanisme qui ont été faites, hein, sur de l'urbanisme de dalle, notamment dans les villes nouvelles qui étaient très à la mode. Et donc, tout ça pour dire que, voilà, de toute façon, c'est un mot un peu tarte à la crème ces derniers temps, mais voilà, penser la résilience à la fois de nos systèmes de mobilité, de se dire, s'il y a un problème dans nos déplacements, il faut être capable de pouvoir les réadapter, les ajuster. Pareil sur nos espaces, il faut avoir des espaces qui sont résilients et qui vont avoir plusieurs fonctions, mais aussi avec un urbanisme qui est moins lourd, moins contraignant. Voilà, cet urbanisme de dalle ou ces grandes tours, c'est avec des charges et des coûts de fonctionnement et d'entretien qui sont extrêmement forts. Donc il faut aussi penser, comme avec la question de la remise en cause de la voiture, penser aux coûts aussi d'entretien et de fonctionnement de ces systèmes qui du coup sont aujourd'hui au centre des enjeux, on va dire, écologiques et de développement durable.
Et vous m'amenez à ma dernière question, finalement, pris par le temps, mais que penser de ce projet de Grand Paris Express et de tout ce qui va s'annoncer, et comment les JO vont remodeler une ville
Alors, le Grand Paris Express, bon, Écoutez, je vais donner quelques ordres de grandeur. Hein, 200 km, 68 stations, 35 milliards pour l'instant d'euros d'investissement, c'est gigantesque. On sait que deux lignes, la 17 et la 18, sont en fait surdimensionnées, ne desserviront pas grand-chose. Et là, une fois de plus, on est dans une idéologie qui consiste à dire, à croire, que il faut unifier le marché du travail francilien. L'Île-de-France, c'est 12 millions de personnes. Et donc derrière le Grand Paris Express, il y a l'idée que si on habite Cergy-Pontoise, on doit pouvoir travailler à Melun sans problème. Ben, c'est de la folie. Ça impose des transports considérables, une charge mentale, enfin une fatigue concrète en fait, tous les jours qui est incroyable. Et c'est pas en accélérant les transports qu'on peut arriver à une solution. C'est en travaillant sur justement un urbanisme multifonctionnel, en fait créer plusieurs pôles de cohérents mélangeant habitat et emploi, de façon à réduire les distances. C'est ça qu'il faut faire. Donc, une fois de plus, on règle un problème d'urbanisme avec une solution transport. Et on le fait toujours pour quantité de sujets. Vous voyez, je ne sais pas, c'est aussi vrai à la campagne. On supprime des maternités, on supprime quantité de services en disant aux gens, mais déplacez-vous. Et en fait, ça coûte plus cher pour la société de concentrer les services et d'obliger ensuite les gens à se déplacer que de décentraliser ces services. Le transport est toujours la solution de facilité. Hein. Les projets d'infrastructures de transport, c'est la solution de facilité pour régler des problèmes plus compliqués.
Et puis, puisque ça implique aussi, c'est un effet rebond. Alors, quand on a la vision écologique, souvent, ce terme-là et ce concept-là arrive souvent, et c'est de se dire qu'au final, en fait, si on va réduire le temps de déplacement, bah, pour reprendre l'exemple entre Cergy et Melun, bah, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens qui avaient les moyens d'habiter à Cergy vont juste habiter encore plus loin parce qu'il va y avoir une augmentation des coûts de l'immobilier et des coûts de la vie dans ces secteurs qui sont très attractifs et très reliés parce qu'il y a ces offres de transport. Et donc les gens qui ont moins les moyens, ils vont s'en éloigner encore et du coup on va avoir un effet rebond où au final, on le sait, en mobilité, c'est que le budget temps de transport, de déplacement des gens au quotidien, il est assez stable. Donc au final, quand on va faire des systèmes de transport qui vont plus vite et qui donc sont plus efficaces en termes de temps, bah, qu'est-ce que ça va faire? Ça va juste qu'il va y avoir un effet rebond où les gens vont juste s'éloigner encore plus. Oui. Donc, c'est toujours un peu une fuite en avant, hein, comme l'a dit Frédéric, ces enjeux de mobilité. Donc il y a aussi un enjeu d'essayer de rétracter, on va dire, les espaces de vie à travers bah, voilà, les offres de services, les démultiplier, que ce soit bah, dans des grandes agglomérations comme l'Île-de-France, comme dans les territoires ruraux, et de permettre ces déplacements-là, qui sont des déplacements plus courts, par la marche, par le vélo, et par d'autres modes, si besoin, les transports en commun, mais pour rendre voilà, les territoires et les déplacements résilients.
Le Grand Paris Express accélère une fois de plus les déplacements alors qu'il faut les ralentir. C'est vraiment ça.
Et derrière l'optique de fluidité...
Il n'y aura aucun gain de temps. Quand on entend les promoteurs du Grand Paris Express, ils vous disent toujours, pour aller de tel endroit à tel autre, regardez, ça va être formidable, on va gagner une demi-heure. Mais on a déjà 70 ans de recul d'aménagement en tout genre dans l'Île-de-France. On a créé depuis 1960, on a créé 5 RER et 1200 km d'autoroute. En nous disant à chaque fois, vous allez gagner du temps, vous allez gagner du temps. Et c'est jamais ce qui est arrivé. On en profite toujours pour aller plus loin. Et en fait, on mettait 75 minutes pour se déplacer en 1976, toute la journée, tout mode compris, et on est aujourd'hui à 1h30. C'est-à-dire que ça a dérivé, le budget de temps de transport, comme nous disons, a dérivé et il n'a pas du tout été réduit. Il n'y a pas de gain de temps grâce au transport.
Donc on dérive, les plus précaires vont plus loin. Je vous remercie, on aurait pu aller plus loin dans ce sujet justement. Et Clément, si vous aviez un mot conclusif vous voyez prendre le micro.
Non, j'allais dire faites du vélo, mais faites du vélo et marchez aussi, parce qu'en fait, je pense qu'il y a un gros enjeu aujourd'hui de politisation de la marche, et donc ça peut être intéressant de penser à la marche en premier.
Le temps long et la marche, on va finir là-dessus. C'était donc le chiffon qui radote encore un peu de temps, le temps du référendum sur le titre de cette émission. Et le chiffon, c'est toujours le journal indépendant de Paris et sa banlieue, mais surtout, c'est une équipe de personnes dévouées qui se réunissent pour s'apprendre, s'entraider, enquêter et vous proposez un journal de qualité dont chaque article est minutieusement relu par diverses sensibilités de 3 générations différentes, s'il vous plaît. Pour ce numéro 8, encore disponible dans plusieurs lieux à Paris, comme la librairie Le Mont en l'air, le Genre urbain, la Friche, Quilombo, entre autres, et j'en oublie, vendu pour 4 €, un abonnement à moins de 20 €. Donc pour ce numéro 8, c'était réinventer la roue. Et comme à chaque trimestre depuis que j'y suis, gratter un sujet pour aller au-delà de ce qui se présente toujours comme le mieux et voir un peu différemment ce qu'on perçoit comme acquis. Vous pourrez donc, en achetant notre journal, en plus du thème du jour, démêler les implications des zones à faible émission, évoquer les ateliers d'autoréparation dédiés aux femmes, découvrir une histoire de l'émancipation féminine par le vélo, entre autres. Et hors dossier, un reportage sur la boxe dans les quartiers ou sur le SAMU social. Je vous laisse découvrir la suite. C'était donc Le Chiffon qui radote encore un peu avec Frédéric Errand, économiste des transports et maître de conférences notamment, auteur d'une étude sur le retour de la bicyclette, une histoire des déplacements urbains de 1817 à 2050.
En poche, 11 €, pas cher.
Eh bien en poche, 11 € pas cher, merci. Et Clément Dussonc, docteur en aménagement de l'espace et de l'urbanisme et expert, formateur en mobilités actives, sa thèse est disponible sur LinkedIn.
Et oui, et sur HAL, et gratuitement, donc encore moins cher que Frédéric. Voilà.
Et excellente thèse.
Merci à vous d'être venu de bon matin partager le fruit de vos recherches.
Merci
à la technique aujourd'hui, c'était Gary, présenté par votre fidèle serviteur Paul. Et rendez-vous tous les deuxièmes jeudis du mois pour continuer à feuilleter les pages de notre beau canard. Et d'ici là, écrivez-nous, faites-nous part de ce qui à vos yeux n'est pas traité, trop peu traité ou maltraité par ailleurs. Du docteur en sociaux au circassien, de la retraitée à la professeure d'université, seul votre engagement et votre sujet compteront. Vous avez 3 mois pour venir écrire dans le numéro de rentrée, alors ouvrez les yeux et écrivez-nous. Ce journal n'existe que par la passion de ses petites mains. Alors si vous êtes passionné et que vous avez des mains, on vous attend. À ciao, bonne journée.
Libertaire 89.4,
la radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste
et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le